Transistor.
Un instant, il y aura l'hélium de l'actu.
Transistor. Web.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, nous sommes le jeudi 4 juin 2020 et nous sommes maintenant déconfinés. On peut même se rendre au-delà de 100 km de notre domicile. Mais votre journal, lui, est toujours dématérialisé et avec cette épidémie, vos chroniqueurs et chroniqueuses sont éparpillés un peu partout en France. Nous sommes heureux et heureuses en tout cas de vous retrouver en ce jour pluvieux de juin pour le dernier journal de l'année. Car il est 20h et c'est donc l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Jera a fait une pause ces deux dernières semaines, l'actualité elle bat son plein et ce soir comme tous les jeudis, une semaine sur deux, nous allons à sa rencontre avec toute l'équipe. Au programme, on parlera bien sûr des mobilisations contre le racisme et les violences policières aux États-Unis et en France, et il y aura aussi comme toujours un peu d'économie, de politique, de sport, d'écologie et de musique. Et on commence tout de suite le journal avec quelques brèves à l'international. On fait un petit tour du côté de l'Amérique latine qui est devenue l'épicentre de l'épidémie du Covid-19. Le Brésil en particulier est touché à cause de la non-gestion de crise du président Jair Bolsonaro et la moitié des contaminés du continent sud-américain sont brésiliens. Le pays compte effectivement aujourd'hui 32 548 morts et il est le quatrième pays du monde le plus touché, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie. Selon l'OMS, en outre, le nombre de contaminés est largement sous-estimé. Le Mexique, quant à lui, est également durement frappé. Le pays a passé la barre des 1000 morts en 24 heures depuis le début de la pandémie, ce qui est complètement nouveau. Au Chili, si la quarantaine totale qui dure depuis un mois à Santiago a été prolongée malgré des émeutes de la faim, qui ont éclaté en banlieue de la capitale et qui ont été durement réprimés, le nombre de morts est beaucoup moins important que dans le reste de l'Amérique latine. Le confinement, enclenché pour limiter la propagation de l'épidémie dans tout le pays, a laissé de nombreuses personnes sans emploi et le gouvernement a été fortement accusé de ne pas pallier aux situations catastrophiques qui ont touché les plus vulnérables. Et on va à Hong Kong également, puisque pour la première fois depuis 30 ans, la veillée en souvenir de la répression sanglante des manifestations d'étudiants et d'ouvriers en 1989 sur la place Tiananmen a été interdite. Cette interdiction a été réalisée au nom de mesures de sécurité en période de pandémie, mais elle cache ses raisons très politiques. La Chine a en effet annoncé qu'elle imposerait à l'ancienne colonie britannique une loi sur la sécurité nationale qui aurait pour but de punir les activités séparatistes, terroristes, la subversion et les ingérences étrangères. Mais en réalité, cela signifierait tout simplement faciliter la répression politique et cela menacerait grandement la semi-autonomie de Hong Kong qui devait être garantie jusqu'en 2047. Et on va bien sûr aux États-Unis avec toi, Rémi.
Oui, tout à fait, aux États-Unis, où la colère n'avait plus atteint cette force depuis bien longtemps. Le pays est traversé par un gigantesque mouvement contre les violences policières. Tout bascule avec le meurtre d'un homme noir, George Floyd, le 25 mai à Minneapolis, par 4 policiers. Le meurtre, filmé pendant 9 minutes, déclenche des émeutes spectaculaires dans la ville, puis dans tout le pays. Et depuis, chaque jour voit la crise s'intensifier. Aujourd'hui, alors que près de la moitié des États ont fait appel à la garde nationale, que 3 morts au moins ont été dénombrés et que plusieurs milliers de personnes ont déjà été arrêtées, Les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd ont enfin été inculpés pour meurtre. Jusqu'ici, seule la charge d'homicide involontaire avait été retenue contre l'un d'eux. Ça ne sera sans doute pas assez pour calmer un mouvement qui rouvre des blessures toujours vives et profondes aux États-Unis et que le président Trump, de son côté, ne semble pas tout à fait enclin à apaiser. Un ras-le-bol face au racisme d'État qui a trouvé depuis de nombreux échos dans le monde, au Canada, au Brésil, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Des marches ont eu lieu sous le même mot d'ordre, Black Lives Matter, ainsi qu'en France, comme nous le verrons dans notre édition nationale.
Et cette édition nationale, justement, tu vas nous en parler tout de suite.
Tout à fait, puisque donc en France aussi, une mobilisation a lieu contre les violences policières. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé pacifiquement ce mardi 2 juin, dont 20 milliers à Paris et plus de 2000 à Lyon, à l'appel du comité Adama et malgré l'interdiction des rassemblements par les préfectures. Adama Traoré, c'est ce jeune homme noir de 24 ans, mort en 2016 dans un commissariat de gendarmerie, alors que la version officielle s'en tient à un malaise cardiaque, et au terme d'un échange de pas moins de 6 expertises, la famille d'Adama a publié ce 2 juin une nouvelle étude qui met directement en cause le plaquage ventral subi par le jeune homme. Cette même technique, rappelons-le, est à l'origine de la mort de George Floyd, aux États-Unis. Les mobilisations contre les violences policières sont donc reparties de plus belle en France. Les manifestants dénoncent une police traversée par un racisme structurel et exigent que les policiers auteurs de crimes racistes soient jugés. Alors que Mediapart et Arte Radio publient une enquête accablante ce matin sur les rouages du suprémacisme blanc au sein de la police française et que le Défenseur des droits a rendu le 2 juin un rapport retentissant sur les violences policières, le ministre, Christophe Castaner, et le préfet de police Didier Lallemand font bloc et nient tout racisme dans la police française. Comme le résumait ce matin Virginie Despentes dans une lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème et diffusée sur France Inter, en France on n'est pas raciste mais il semble qu'il reste encore bien du boulot Mathilde.
Merci Rémi pour ce point et ce sera bien sûr à suivre de très près. Victor, toi, tu vas nous parler d'une commission d'enquête sur l'incendie de Lubrizol.
Eh oui, 8 mois après les événements, l'affaire de l'incendie de Lubrizol à Rouen est de retour au premier plan grâce à un rapport d'enquête sénatorial publié aujourd'hui après l'approbation du Sénat. Et autant dire que le rapport n'est pas tendre avec l'État dans sa gestion de la crise et quelque chose me dit que ce genre de rapport risque de tomber assez souvent dans les prochaines années. En effet, le rapport pointe une incapacité du gouvernement à communiquer clairement et simplement, une méconnaissance des risques industriels, donc amis qui vivaient à côté d'un des 1300 sites Céveso, on pense à vous, des prises de parole contradictoires et une indulgence de l'État vis-à-vis des industries, voilà qui est rassurant pour le monde d'après, surtout quand on sait les milliards investis dans l'industrie aéronautique et automobile.
Et c'est tout pour ce petit tour de l'actualité nationale et internationale. C'était les brèves. Oui, effectivement, tu vas nous parler des municipales. À ne pas oublier, puisque c'est dimanche 28 juin, c'est ça. Et donc, il faut que tu nous fasses le point avant.
Cette interruption, mais effectivement, c'était la date butoir, mardi à 18h. Les listes pour le second tour des municipales ont été déposées et sont désormais connues au terme de tractations particulièrement rocambolesques cette année, coronavirus oblige. Ni de gauche, ni de gauche, c'est ainsi que se positionnent massivement les listes La République En Marche, qui ont fusionné avec la droite dans de nombreuses villes. Gérard Collomb, qui a rejoint la liste de François-Noël Buffet à Lyon, s'est vu retirer l'investiture La République En Marche pour la forme, mais a été suivi malgré tout par les marcheurs de Strasbourg, Bordeaux ou encore Clermont-Ferrand. À gauche, c'est l'Union qui prévaut, mais avec des équilibres nouveaux où Europe Écologie Les Verts prend une place prépondérante, comme à Lyon encore, où les têtes de liste Grégory Doucet et Bruno Bernard emmèneront les socialistes communistes et insoumis, réunissant au passage les gauchistes ennemis Renaud Père et Nathalie Perrin-Gilbert. À Paris, Anne Hidalgo s'assure quasiment une réélection en s'unissant à nouveau aux écologistes, À Marseille, la liste d'Union du printemps marseillais est rejointe de même par les écologistes et tentera de ravir la ville à la droite dans un contexte particulièrement tendu. Les couacs sont nombreux néanmoins. À Lille, Martine Aubry part seule et alimente un conflit de longue date avec les écologistes. À Strasbourg et à Montpellier, des gauches morcelées ouvrent un boulevard à la droite. Les électeurs départageront ces listes le 28 juin dans un scrutin qui ouvre une séquence qui se poursuivra avec les sénatoriales, les régionales, les présidentielles, que tout le monde a d'ores et déjà en tête.
Et c'était en effet un point plus que nécessaire avant d'aller voter. Merci Rémi. On peut maintenant passer à la revue de presse.